Non.
Alors moi j'ai eu 20 ans il y a maintenant un mois.
Eh ben joyeux anniversaire mon grand.
Bah merci.
Et toi tu voudrais présenter les infos sur quelle radio si t'avais une baguette magique?
Alors franchement mon rêve ça serait d'être comme Lucas, faire de la libre antenne mais sur RMC.
Ah c'est vrai?
Ouais.
D'accord.
J'aime bien l'univers du sport.
D'accord, très
ça
bien.
Ça me passionne.
Deux registres complètement différents, complémentaires. Il parle fort au standard à côté.
Ouais. Hein. Ouais,
ouais, ça veut dire que ça appelle, c'est bien. C'est
ça
bien.
Veut dire que ça appelle. Vous écoutez Radio Resto, il est 15h. Merci les copains, tout va bien, vous pouvez continuer, pas de souci. On est ensemble jusqu'à 16h.
Radio Resto.
48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi.
Relevons le défi.
Et Thierry?
Et le flash nous est présenté par Ilan Benatar. Bonjour Ilan.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Depuis hier, la saison 4 de Radio Resto a débuté, réunissant le monde de la radio et des médias en une seule et même station. Le but de ce rendez-vous est de récolter un maximum de fonds nécessaires afin de financer des camions. Pour rappel, un camion coûte 40 000 euros et permet de transporter des denrées. Les Restos du Cœur mettent aussi en place des ateliers de soutien à l'emploi qui aident les bénéficiaires. L'un de nos journalistes est parti à la rencontre de bénévoles permettant ce dispositif. Un reportage signé Simon Soudain.
Ici, à Limay, dans les Yvelines, 4 bénévoles s'investissent dans cette action. Le SRE de ce centre a été créé en février 2022. Gwen fait partie de l'équipe qui en est à l'origine.
On accueille des gens, en fin de compte, qui sont souvent en rupture par rapport à un passé compliqué ou par rapport à une vie compliquée, qui sont pas du tout sûrs d'eux et qui pensent qu'ils ne retrouveront jamais de boulot.
Gwen est responsable du soutien à la recherche d'emploi avec Cathy, qui est bénévole au sein des Restos du Cœur depuis bientôt 9 ans.
Alors mon rôle principal, c'est d'accueillir les personnes, de leur fournir un CV, d'écrire leurs fiches et de surtout qu'elles reprennent confiance en elles.
Pour aider les personnes accueillies à reprendre confiance, l'équipe parle avec elles dans les entretiens qui sont souvent individuels.
Déjà, on les accueille autour d'une table, donc ça enlève la barrière administrative. On propose un petit café, donc ça met tout de suite les gens à l'aise.
Dominique est en charge de la partie administrative des personnes accueillies. Il est entré au Resto du Cœur en septembre 2022.
Pour pouvoir travailler, il faut être à jour de ses documents administratifs, donc carte vitale, donc papier d'identité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et aussi pour les étrangers, carte de séjour, on ne peut pas travailler sans carte de séjour en France. Donc je m'occupe de mettre tout ça à jour.
Gwen se charge ensuite de déposer les CV sur un site, la plateforme de l'inclusion. C'est un dispositif que ce centre a découvert grâce à un partenariat avec Pôle emploi.
En gros, c'est une plateforme avec des entreprises qui ne fonctionnent que par l'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont des subventions à chaque fois qu'ils embauchent des personnes.
En environ un an, cette plateforme a permis de remettre une centaine de personnes à l'emploi. C'est à peu près 4 personnes accueillies sur 5 qui ont trouvé un travail. Le centre de Limay a un partenariat avec la mairie de la commune pour envoyer des personnes en service civique et aussi avec des entreprises d'intérim, des entreprises d'insertion professionnelle ou encore des ressourceries. Pour Christina, une personne accueillie au Resto du Cœur, l'accompagnement de l'équipe et la plateforme de l'inclusion lui ont permis de trouver un travail rapidement.
Bah, c'était trop bien passé. Après 2 jours, j'étais appelée, j'ai eu un entretien et après, j'ai commencé tout de suite à travailler. Bah, ils m'ont fait le CV, ils m'ont préparé un peu pour prendre un peu la confiance pour l'entretien et tout. Bah, ils m'ont aidé beaucoup.
Grâce à l'aide des Restos du Cœur, Christina travaille dans une cantine depuis le 30 janvier dernier dans le cadre d'un contrat d'insertion d'une durée d'un an. Après leur recrutement, les Restos du Cœur continuent de prendre des nouvelles des personnes qui ont trouvé un travail.
Pour nous aider dans l'achat de camions, c'est très simple. Rendez-vous sur radio.restoducœur.org. On compte sur vous.
Bienvenue sur Radio Resto.
Merci à Ilan Benatar qui revient dans une heure pour un prochain point sur l'actu. Évidemment, pas de météo, hein, j'ai remarqué. Non, pas de
Ah non, pas aujourd'hui. En tout cas, il fait très très beau dehors.
Il fait beau. C'est vrai qu'il fait beau sur toute la France. Merci. Merci Ilan.
C'est la météo la plus courte du monde.
Voilà.
Nous sommes en direct jusqu'à 16h. Je vous rappelle que sont avec nous aujourd'hui Ségolène Aluni, que l'on retrouve présente pour Terre de Tournage, diffusée tous les week-ends dès 17h sur France Bleu. Eva Béton Vincent était avec nous aussi, journaliste et critique de France Inter. On lui doit notamment, entre autres, le masque et la plume. Elle est aussi responsable du prix Livre Inter. Ça va toujours, Eva ? Bien ?
Très bien.
Bon, ravi. Et puis Vincent Perrault, qui eh bien, est sur RTL avec Pop Ciné. Rappelle-moi, c'est le dimanche, hein, Vincent ?
Alors, c'est le samedi et le dimanche, samedi de 4h30 à 6h. Et puis avec Eric Jean-Jean, le mercredi soir, je raconte des histoires de musique et de chansons de films. Et puis depuis quelques années, j'ai créé Pop Cinoche, ma chaîne de cinéma sur YouTube, sur Facebook, mais qui propose des photos tous les jours, des interviews de metteurs en scène, d'acteurs, etc.
Dingue.
Ah oui, mais j'adore ça, je ferais que ça toute ma vie ça tenait qu'à ça. Mais ça s'appelle Pop Cinoche sur les réseaux sociaux. C'est très très sympa à faire et j'espère à regarder.
Et on lui fait un coucou à Eric Jean-Jean qui sera d'ailleurs demain, je crois, à l'antenne. Il a une émission, il participe à une émission et qui est comme toi, qui est passionné de. En fait, vous allez bien ensemble, tous les deux. Faites un bon duo parce que sa passion pour la musique.
Et moi pour le cinoche.
Et toi pour le cinoche.
On se rejoint pour la musique de film et les chansons de film. C'est très sympa.
À vous deux, ça donne. On va vous proposer une interview maintenant. Alors, c'est une interview en rafale. Donc, on va vous poser plein de questions. Il faut être les mêmes questions pour tout le monde. Évidemment, des réponses probablement différentes. Quoique, va se voir.
On va voir.
Il faut répondre très vite. Vous êtes prêts ? Okay. On commence, Isa ?
Allez. Votre interview la plus drôle.
Moi, je sais. Moi, c'est à chaque fois que je le rencontre, en fait, c'est Benoît Poulvorde. C'est impossible. C'est impossible de faire une interview normale avec lui. Heureusement, enfin non, j'aimerais bien que ce soit en direct, mais à chaque fois, c'était ce qu'on appelle en junket press, quand on va rencontrer les équipes de films dans des hôtels luxueux. Voilà, et donc à chaque fois que j'ai rencontré Benoît Poulvorde, c'était là, cette année, récemment, à chaque fois, c'est impossible de garder son sérieux. J'étais en fou rire, donc je ne garde pas mes questions au montage, puisque je n'arrive pas à les poser normalement. Et donc, il y en a une, j'ai une anecdote. En fait, il avait 45 minutes de retard sur l'heure de l'interview parce qu'en fait, il prend énormément de temps avec les journalistes parce qu'il digresse. Ouais. Et après, moi, j'avais rendez-vous pour faire une interview, mais à l'autre bout de Paris, avec François Damiens. Et je lui dis, en début, je lui dis, ouais, il faut que je me dépêche. Il fait, vous êtes pressé? Je fais, oui, j'interview François Damiens. Et à partir de là, c'était terminé. Toute l'interview, alors que le film dans lequel il jouait n'avait rien à voir avec François Damiens. Ouais. Il m'a parlé de François Damiens. Je lui dis, oui, alors, pourquoi ce film, Benoît Poulvorde? Il fait, ah bah écoutez, c'est un film très bien parce qu'il n'y a pas François Damiens dedans. Il fait, c'est sûr, hein, il coûte cher, François Damiens. Ouais. Oui, il joue donc quoi comme merde déjà, ce truc? Et en fait, c'était ça tout le long. Ouais. Donc, je l'ai dit à François Damiens le soir. Et pour terminer, après, Benoît Poulvorde, le même jour, était dans C'est à vous sur France 5 le soir. Et en fait, François Damiens lui a fait une blague et l'a appelé sur son téléphone. Il se trouve qu'il ne coupe jamais son téléphone. Donc son téléphone a sonné à Benoît Poulvorde pendant l'émission du direct. Et en fait, c'était François Damiens qui voulait le déstabiliser pendant son interview parce qu'il avait parlé de lui.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réponse rapide, ça? Non, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée.
Mais c'est pas grave parce que c'était croustillant. On n'en a pas perdu de miettes.
J'ai oublié. Je t'ai pas coupé, Ségolène. Hein, t'as vu?
Il est bien élevé, Vincent.
Tu nous as embarqué. Ouais. Merci.
Je reviendrai pas à la prochaine.
Mais non, c'était bien. On était complètement dans l'histoire.
Alors, la même question posée à Eva et à Vincent.
Eva.
Alors, une fois, je vais interviewer Juliette Binoche pour un film où elle jouait Georges Sand, un film d'époque.
Oui.
Et avec mon confrère et camarade Vincent Josse, on avait une sorte de gimmick où on sortait une sorte de phrase, j'ai oublié laquelle, mais une phrase impossible à caser quelque part.
D'accord.
Mais ça faisait une semaine on rentre pour l'interview une seconde avant, je lui dis, je te préviens, quoi que je dise, tu ne ris pas.
Bon.
Mais c'est pas ce que j'allais dire. Et j'arrive sur un film d'époque à caser cette phrase en question. Et il explose de rire, on entend le rire donc dans le métophone, et je raconte ça à Binoche, qui elle-même est morte de rire, et c'était très dur de reprendre l'interview.
Bien sûr.
Et une autre fois, avec le même Vincent, il voulait voir, j'interviewais Vanessa Paradis, et il me dit, j'ai envie de la voir, je viens, je joue ton technicien. Ben, il fait comme si tu étais mon technicien.
Mettez votre casque, Eva, s'il vous plaît. Merci.
Donc, je lui dis, comme si tu étais mon technicien, et comme il n'était pas vraiment technicien, il se sentait un peu coupable.
Ouais.
Donc il rentre et il dit à Vanessa Paradis, je viens pour la prise de son. Elle dit, la prise de son? Mais je n'ai pas besoin d'une prise de son. Donc là, après, c'était très dur de faire une interview.
Mais oui, c'est clair que ce n'est pas facile. Ça déstabilise Vincent.
Moi, c'était avec Eric et Ramzy, je n'ai pas pu.
C'est vrai?
C'était au Festival de Cannes. Ils étaient excités comme des puces. C'était pour la tour Montparnasse infernale. Mm-hmm. Et ils étaient portés par le succès du film, fou de joie, comme des gamins. On n'a rien pu faire et rien pu garder.
C'est vrai.
Il n'y avait rien de possible. C'était un éclat de rire de 6 minutes à vivre sur le moment parce que ça ne pouvait pas se transmettre. Et c'était terrible, c'était pas possible.
Ces moments-là sont très excluants pour l'auditrice et l'auditeur. Parce
c'était
que...
pas en direct, heureusement. Ah oui, c'était pas en direct. Heureusement, c'était enregistré. On est retourné deux jours après. Et là, ils étaient redescendus un peu et ça a été de nouveau possible.
Ça allait mieux. Je rappelle les règles.
Hein. On n'arrive pas à faire des réponses courtes.
Oui, c'est vrai. Hein. Alors, il est 15h10.
Mais c'est bien, bien de vous écouter raconter tout ça.
Ça fait plaisir.
Non, c'est allez, vrai. On enchaîne avec l'interview, votre interview la plus pénible.
Ah oui. Alors là, celle-là, à vraiment, vous, êtes, vraiment ouais, là, ouais. Vous pouvez balancer, hein, parce que là, il y en a marre. Hein.
Ah non, mais c'est de moi-même que j'ai envie de me moquer, pas de la personne interviewée.
Ah bon
une fois, on reçoit, c'était à l'époque avec Jean Lucas, on faisait le journal de 13h dans le 108, le grand studio, etc.
Magnifique.
Et pour la partie culture, on recevait Elia Kazan et un autre invité. Ah, donc oui. On avait gardé 20 minutes pour Elia Kazan et 7 ou 8 minutes pour l'autre. Et arrive, il avait sorti un livre de mémoire, de toutes sortes de choses. Et donc, il s'assoit, on lui pose la première question, et la réponse est assez étrange. Mmh. À la deuxième, à la troisième question, on comprend qu'il n'entend pas bien. Et dans la salle, il y avait Bertrand Vanier, qui était le directeur adjoint de la rédaction à l'époque, qui comprend lui aussi, et qui lui met le casque. Sauf qu'il oublie d'ouvrir le son. Ah. Donc, le peu qu'il entendait, il n'entend plus du tout. Et donc, 20 minutes à poser des questions. Et donc, des questions extrêmement vagues. C'était du genre, une belle vie, n'est-ce pas? Et le cinéma. Et vous devez, en se disant, peut-être qu'il va nous mettre quelque chose. Donc, des questions. Et quand on a terminé, il m'a dédicacé son livre en me disant, merci pour votre patience.
Ah, c'est sympa.
Et c'est du direct.
Ah, bah oui, alors en plus, c'était en direct. Vincent.
Je vais vous faire gagner un peu de temps. J'ai pas de souvenir d'une interview pénible.
Ah,
honnêtement, des plus intéressantes que d'autres, oui. Des plus enrichissantes que d'autres, oui. Mais quelqu'un avec qui je me suis ennuyé ou alors si j'ai vraiment été.
Ou qui a
pas
été
bon,
désagréable, hein, parce que moi, j'ai juste une anecdote très rapide. Là.
Ah, oui, vas-y, parce que moi,
vas-y, Ségolène.
Maïwenn. Maïwenn, infect.
Ah, c'est vrai.
En tout cas, ce jour-là, c'était pour la promo de Police, qui est un film génial, que j'ai adoré. Et en fait, elle était de mauvaise humeur ce jour-là. Elle prenait des œufs à la coque.
Des œufs à la coque ou à la coque?
Non.
À la coque. Pardon.
Elle faisait mouillette, là, devant tout le plateau de journalistes. Et puis un jour, je lui demande, à un moment, je lui pose une question et je lui dis, alors, cet accouchement, vous l'avez filmé en vrai parce que ça paraît vraiment très, très réaliste. Elle fait, vous croyez vraiment que j'ai filmé un accouchement en vrai? Non mais n'importe quoi. Elle m'a envoyé chier, mais vraiment.
Ah ouais.
Et tous les autres journalistes se sont marrés, comme si ma question était vraiment ridicule.
Et c'était pas du second degré.
Non, elle était vraiment désagréable. Bah, mais après, c'était peut-être ce jour-là. Mais
en plus, si elle connaissait un peu mieux le cinéma, elle saurait que Robert Altman a filmé un véritable accouchement dans Dr. T et les femmes. Donc, on peut filmer un véritable accouchement au cinéma. On peut peut-être lui apprendre.
Mais surtout qu'elle a filmé des vrais trucs, des vrais embrouilles, des vrais pleurs, etc. Donc, ça aurait pu être le cas.
C'était pas une question idiote, Ségolène.
Merci.
Non, mais c'est vrai en plus. Bon, l'interview la plus difficile à obtenir, celle où vous êtes battu, vraiment, vous êtes dit, mais c'est pas possible, je vais bien finir par l'avoir, Eva, quelqu'un de...
Là, je vais sembler encore un télo, pardon, mais ça a été Alain René qui ne donnait pas d'interview radio.
Ouais.
Et je crois que, je sais pas, c'est au bout de 15 ans qu'un jour, il a dit oui.
Ah.
Et c'était formidable parce qu'il était... En plus, drôle. Alors là, je révise comme si je passais la grecque de René.
Ouais.
Pareil, il y a des gens comme ça où c'est extrêmement rare, c'est-à-dire que vous revoyez tout, vous lisez tout, etc., pour pouvoir après avoir la tête libre, avoir beaucoup préparé et donc pouvoir être à l'aise pour lui parler. Mm-hmm. Et c'était un moment absolument formidable, mais je vous dis, ça fait partie des gens où, oui, ça a bien mis 15 ans.
Ouais.
Oui, ça valait. Franchement, c'était un immense réalisateur. Je me souviens une fois, Soderbergh disait qu'il trouvait qu'après René, à un moment, il avait voulu arrêter le cinéma. Il disait que dans l'invention de la grammaire du cinéma, René, c'était ce qu'il avait vu de plus intelligent.
Ah oui.
Et je lui avais dit, si un jour j'arrive à faire un entretien croisé entre vous et René, est-ce que vous seriez d'accord? Il était d'accord sur le principe, mais bon, après, René a disparu.
Ah, bon. Dommage.
Mais c'est 15 années de patience.
Moi, ça a été Woody Allen.
Woody Allen.
J'ai mis presque 18 ans pour arriver à convaincre que je devais rencontrer Woody Allen un jour. Et puis, on m'avait dit, méfie-toi, comme il répond en général, que par oui ou par non, prépare beaucoup de questions. J'en ai posé que 4, tellement il a répondu longuement à toutes mes questions.
Ah, ouais.
Ah, génial.
Ah, ça a matché, il y a eu un truc, c'était pour Matchpoint d'ailleurs.
Ah ben.
Ça a matché pour Matchpoint. Et
qui reste son meilleur film, on est d'accord?
Ah, un des de la période récente, parce que dans les années 70, il y a eu des trucs bien quand même. Hein.
Ouais.
Mais ça valait le coup d'attendre, et puis c'est jouissif, et c'est des grands moments quand en plus ça aboutit sur quelque chose de constructif comme ça. C'était un grand moment.
Ouais. Alors moi, j'ai mis moins de temps à obtenir celui. Moi, c'était Jean Dujardin. hein, que j'arrivais pas à, ah à ouais avoir, ouais, en fait, parce qu'il était déjà interviewé sur d'autres émissions de France Bleu, donc je passais par les attachés de presse, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il se trouve que je l'avais déjà interviewé par le passé, notamment à Nice, à France Bleu Azur, quand je travaillais en région. Et 6 ans après, je suis à Paris, je l'interview pour le film Le Dain de Quentin Dupieux. Mmh. Et il se souvenait de moi, il fait « Mais Ségolène ?» 6 ans après, oh, il se classe souvenait ah, ouais de moi en ah, interview, ouais, un truc de fou.
C'est génial.
Et donc du coup, on a gardé contact à partir de ce moment-là, voilà, sur les réseaux sociaux. Et donc comme pour un des derniers films qu'il a fait sur Les Chemins Noirs, je n'arrivais pas à l'avoir en interview par les attachés de presse, je suis passée directement par lui. Je, ah, ouais, je lui ai demandé directement.
Et ça, les attachés de presse adore.
Et du coup, ah, ça, ouais, non, l'attaché de presse, le ouais jour même, m'appelle, fait « Ségolène, oui, bonjour, finalement, bah, Jean m'a dit que vous lui aviez écrit et tout, je savais pas que vous vous connaissiez. Bah, » oui, bah, du coup, c'est bon pour l'interview, par ouais, ouais, parfois.
C'est génial.
Merci, merci Ségolène pour cette confidence. Il est 15h15, on fait un petit point tout de suite avec Lucas sur oui les dons, justement. Où en sommes-nous, mon cher Lucas?
Eh ben, on a quand même bien avancé parce qu'on est à 173 903.
Ah, bon, ouais, et donc, ça bouge. Ça.
Encore 100 euros et on est à 174 000.
Ouais, ouais, ouais. Donc, ben, c'est cool. Moi, déjà, alors, je vais déjà commencer par les mettre et puis comme ça, on peut considérer qu'on genre est... voilà.
100 euros, j'ai regardé du coup sur le simulateur du site des Restos du Cœur.
Ça fait combien, 100
euros? En fait, ça fait 25 euros.
D'accord, mais attends, parce que Vincent vient de rajouter 100 là.
Oui, je viens de rajouter
merci
100.
Merci Vincent.
Je peux
Vincent
pas le faire là, je vais le faire de façon effective, mais.
T'as pas du cash?
T'as pas du cash?
Pas assez.
Non, parce que là, si je compte bien, on est à 4, on a 5 camions, enfin 4 camions et demi là, à peu près là. Hein.
Un petit peu moins.
Ouais, c'est si, ça, c'est ça. Hein.
Ouais, ouais, à peu près.
Il nous manque combien pour avoir le 5e camion?
Alors là, ça calcule. Je suis très nul en maths, mais je vais regarder ça.
Tu vas le faire. Je vais
regarder ça. 1 000 par camion.
Le temps d'écouter un titre des. Il manque 25 000. Merci, merci beaucoup à Henri ou Benjamin. Henri qui m'a donné la réponse.
Alors je vais pas les mettre tout de suite. mais ok pour les 100.
Voilà, merci beaucoup Vincent. Et si comme Vincent, vous voulez faire un don pour les Restos du Cœur, c'est Radio Resto pendant 48 heures. Rendez-vous dès maintenant sur Radio Resto.
Resto.org.
Voilà. Les enfoirés, ils sont venus, ils sont tous là. On les écoute maintenant et on revient juste après. On a plein de questions à poser à l'ensemble de nos invités. Merci d'être avec nous pour envoyer le disque avant qu'il commence à cappella. Il commence à cappella. Donc je me tais maintenant et je vous souhaite la bienvenue sur Radio Resto.
Il y aura toujours un rendez-vous.
Un combat oublié.
Toujours un rêve à faire. Il y aura toujours un rendez-vous.
Un signal à donner à nos amis, nos frères.
Une note envolée aux quatre coins du monde. Une goutte d'espoir qui inonde. Il y aura toujours un rendez-vous. Un sourire à laisser à nos enfants demain. Et ça ira.
Thank you.
Bienvenue sur Radio Resto, il est 15h20 et nous sommes ravis de vous retrouver cette année encore pour cette quatrième saison de Radio Resto. Un don plus un don plus un don égale un camion. Les garçons, allons-y.
Radio Resto, 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi.
Merci Benjamin, merci Henri qui sont en régie et les élèves du Studec qui sont mobilisés évidemment pour eh bien faire que tout cela est possible avec le Crédit Mutuel notamment qui est partenaire, Alliance notamment, j'ai oublié personne, non si, c'est bien de les citer.
Oui, c'est bien.
Ils nous soutiennent, oui, ils nous aident. C'est important de les citer ces gens-là, oui, quand même, ils donnent du pognon alors.
C'est voilà, toujours important les partenaires.
Il faut dire merci, voilà. Merci.
Il faut savoir dire merci dans la vie. Oui. Si vous venez de nous rejoindre, ben oui, c'est la moindre des choses. Eva Béton est toujours avec nous. Ça va, Eva?
Mais très bien, j'ai pas l'air.
Si, très très bien.
C'est tellement bon de vous entendre parler comme ça de toutes ces anecdotes, de tous ces souvenirs de cinéma.
Exact.
C'est, franchement, je vis un rêve là avec vous.
Ah, ça fait plaisir, Isa.
Ouais, vraiment.
Et alors Eva, évidemment, qu'on retrouve sur France Inter. France Bleu est représentée par Ségolène Aluny. Ségolène, ça va?
Avec trop bien. Moi, je pourrais rester toute l'après-midi entière.
Bah ouais,
franchement.
Il nous reste 40 minutes, mais on va essayer d'en dire un maximum dans ces 40 minutes. Vincent Perrault d'RTL est là, lui aussi. Ça va Vincent?
Ah ben on se régale, on parle de ce qu'on aime et en plus on essaie d'être un peu utile. Je peux faire une petite parenthèse
bien
très
sûr,
rapide?
Bien sûr.
Parce qu'il y a un truc qui depuis le début de l'émission me fait plaisir autant que ça m'émeut. Juste en face de moi, juste derrière Ségolène, j'ai un portrait de Coluche là sur l'affiche des Restos du Cœur. Mais il est pile poil dans mon axe de regard. J'ai l'impression qu'il est là, qu'il nous regarde, qu'il nous écoute et qu'il se dit merci à vous tous les gars d'être là. Parce qu'on raconte nos petites histoires de ciné, mais le plus important c'est qu'ils appellent, c'est que ceux qui nous écoutent fassent des dons et qui contribuent à ces camions dont on a besoin pour transporter toutes ces denrées alimentaires. Donc on est là pour se faire plaisir, mais oublions pas la cause. Redonner l'adresse et appeler et donner quelque chose. Parce que le monsieur qui est devant moi, là, il a fait ça un jour sans se douter de ce que ça allait devenir et c'est important de le faire pour lui et pour tous ceux qui en ont besoin aussi, me semble-t-il.
Ouais, c'est
merci
clair.
Merci Vincent.
C'est clair. Merci Vincent, tu as raison. Et justement, Lucas, pour faire des dons, on fait comment?
Il faut aller sur le site radio.resto avec un S du cœur.org. Et puis, il y a un petit rond rose. On ne peut pas le louper parce qu'il est très flashy avec marqué faire un don. On rentre ses infos bancaires. Et en plus, c'est défiscalisé de 75%.
Coluche, qui s'il nous écoute du paradis, doit être content de ce qu'on est en train de faire, j'imagine, je l'espère du moins, mais qui doit être en colère aussi de savoir que les Restos du Cœur sont encore d'actualité en 2023.
38 ans après. Hein,
ouais, 38 ans après, en effet. Si on repartait dans nos répliques de films,
ils ont envie de jouer tous les deux, on voit.
On adore ça.
À un moment donné, je vais te dire, quand même, tu y vas, Isa, ou pas
Allez, vas-y, lance-toi, Vincent.
Bon, d'accord, alors attends. Bouge pas, plouf, plouf. C'est cruellement. Alors, réplique de film, attention. Hein. Donc, on donne la réplique d'un film. Vous devez donner soit le titre du film, soit le réalisateur, ou soit le comédien qui l'interprète. Hein. Vous êtes prêts?
Oui.
La citation est la suivante. C'est cruellement fatigant d'être intelligent. Je sais pas, faudra que j'essaie.
C'est un joli mot, en tout cas. Mais...
C'est cruellement fatigant d'être intelligent. Ah, je sais pas, il faudra que j'essaie.
Trop fatigant pour moi, je suis pas assez intelligente, j'ai pas la réponse.
Si on vous dit, si on dit, François Pignon.
Ah bah là, c'est plus un
indice. Alors attention.
C'est plus un indice, là. C'est la réponse. C'est tout Isa, ça. Ah, je te jure.
Mais François Pignon, ça aurait pu être plusieurs films. Hein. Ça aurait pu être L'Emmerdeur, ça aurait pu être Le Dîner de Con, puisqu'il est, c'est un personnage récurrent de Francis Weber.
Ah, c'est vrai.
Mais oui.
Et
oui,
mais là, c'est Le Dîner de Con. Ouais. C'est ça. Exactement. 1998. Ouais.
Et c'est l'échange entre Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Avant la réplique d'Isa, dans quelques secondes, on va partir au standard où nous a appelé Pascal qui est là. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Resto. Vous nous appelez de Loire-Atlantique à Nantes. C'est bien cela Pascal?
C'est bien ça.
Voilà, vous avez 60 ans. Vous faites quoi dans la vie?
Je suis informaticien.
D'accord. Toujours en activité. Merci d'avoir eu la gentillesse de nous appeler. Vous vouliez nous parler de quoi Pascal? Vous vouliez une question peut-être pour quelqu'un de l'équipe ou un message pour les bénévoles?
Non, mais j'avais un message. Je suis donateur des Restos du Cœur depuis bien longtemps. Voilà, et puis donc je suis le fonctionnement des restos. Et puis j'ai reçu le mail là, pour le jeu des trois questions. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que...
Ah oui, vous vouliez jouer au jeu des trois questions.
Ah, ah c'est
oui.
pour jouer. Mais on nous avait dit qu'on jouait pas.
Bah oui, parce que alors, moi je voulais le faire et les gars m'ont dit, vous les avez les trois questions ou pas les gars?
Ah bah du coup non alors.
Ah bah ils les ont pas.
Sinon,
ah
bah c'est bien
rendement mené.
Ouais mais alors le problème c'est... Alors non Pascal, alors attendez, je vous explique Pascal, c'est qu'en réalité il y a 5 camions qui sont dans la partie en réalité pour ce jeu proprement dit, mais nous n'en avons pas nous dans ce dans cette émission là. Je sais pas si je suis clair.
Moi j'ai rien compris.
J'ai vu le numéro, j'ai appelé participer au camion.
Eh ben c'est pas grave, mais si vous voulez nous envoyer un camion, vous pouvez Pascal, on se l'a dit. Merci beaucoup de nous avoir appelé et à très très bientôt. Ils sont drôles au standard, ils m'ont fait les gars. Bravo, vraiment là, les gars, je te jure, vraiment. Bon, Isa, une petite réplique, s'il vous plaît.
Alors, vous devez trouver le film, hein, je vous rappelle.
Oui.
C'est l'angoisse du temps qui passe, qui nous fait parler du temps qu'il fait.
Ah, c'est beau.
Ah oui, c'est beau, mais c'est compliqué.
C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait parler du temps qu'il fait.
Allez, un indice, parce que... Là...
Ah oui.
Le titre du film est assez long et assez joli, je trouve. Et il est très long. Et la voix...
C'est un film français ou...
Français. Oui, français.
Oui, pour un titre long.
Et dans ce film...
De quelles années
C'est une bonne question, Eva Bétan.
Donne-nous le titre, on va te donner l'année.
La vie est un fleuve tranquille.
Non, c'est pas ça.
Mais c'est un long titre un peu dans ce genre-là.
D'accord.
Je cherche la réponse pour l'année.
Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages.
Mais non, c'est pas possible de répondre.
C'est un petit
c'est
peu
juste
moins...
un film long.
C'est un peu moins long que ça quand même. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet.
Amélie Poulain.
Oui, bonne réponse de Vincent Perrault.
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
C'est pas si long que ça.
Non.
Non, non.
On a fait pire.
C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait. Donc, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet.
C'était quelle année
2001, j'ai vérifié.
Mais
alors, figure-toi que j'ai qu'une barre de réseau, moi, ici. Alors,
ça capte pas.
J'ai réussi à choper 2001 et la dernière seconde, dernière ligne droite. Vous êtes prêts? Attention. Oui. Vous avez de la pâte? Bon, vous avez du sucre?
Ah, oui.
Avec la pâte,
potane.
Vous faites une crème.
Oui, oui. Ah,
vous mettez du sucre dessus, oui. Ça fait une crêpe au sucre. Oui. Podane. Non, mais sans déconner, Ségolène.
Je crois que Ségolène confond avec le cake d'amour.
Quand elle met sa bague à l'intérieur de la pâte.
Exactement.
Le premier film que j'ai vu.
Et sur, qu'est-ce qu'il voulait? Encore une crêpe au sucre.
Voilà. Et n'en revenez plus ici, vous, monsieur. Et la réponse
les bronzés font du ski.
Les bronzés font du ski, voilà. Quel est le plus gros défaut de Bernard? Il est égoïste. Non, mais sur les skis.
Oui.
Ce que tu vas faire, Bernard, c'est que tu vas retirer un ski. Mais c'est complètement con, je vais me casser la gueule. Mais comme ça, tu vas bien te rendre compte de l'utilité des deux jambes. Effectivement, et après, t'as Julio qui tombe.
Il refait tout le film.
Ah, j'adore.
Mais on peut le réciter entièrement, film. Non. Entièrement.
Regardez-moi la dentelle, la finesse du point. Ah, il y a la télé. Tu sais, c'est quand ils arrivent à la fin chez les montagnards. Eva, les bronzés font du ski, ça.
Non, ça va. J'aimerais naître.
Ça passe.
Les bronzés font du ski aussi. Ça va.
C'est juste la cité de la peur. C'est
par cœur. Mais il n'y a que la cité de la peur, ma grande honte. Mais à part ça, ça va.
C'est pas grave.
Alors, Ségolène, tu disais que Podane, c'était ton premier film, le premier film que tu avais vu petite.
C'est un des premiers films que j'ai vu et qui m'a vraiment marqué parce que j'avais un délire de princesse comme à peu près toutes les petites filles de mon époque et donc du coup j'étais fascinée par les chants de Catherine Deneuve, mais c'est pas Catherine Deneuve qui chante, ça je laisse plus tard, et par les robes robes incroyables, magnifique. La tenue de lumière, enfin,
couleur
etc.
de lune,
couleur de lune, ouais.
Alors c'est quoi, Vincent et Eva, pour vous le premier film,
le
votre
premier
souvenir
dont on se souvient,
de premier film d'enfance Eva qui vous a marqué?
Alors moi je suis obligée d'un tout petit peu raconter ma vie, pardon. Moi
c'est
je
pas
suis
grave.
À Casablanca et on allait, il y avait un soir où on allait, on disait on va en VO. Et on devait avoir 12-13 ans. Et c'était à 18h. Et pour nous, c'était sortir le soir. On ne se rendait pas compte que c'était une sorte de ciné-club où on nous montrait on a vu des Fritz Lang, des Mankiewicz, sans savoir ce que c'était. Et les images qui ont marqué mon imaginaire, c'est des images de films, au fond, que je ne comprenais pas. Ah. Dans Le Tombeau hindou, ou c'est dans Le Tigre du Bengale, il y a quelqu'un qui entre dans une léproserie et la porte se ferme. Et cette terreur-là est fondatrice. Il y avait, par exemple, Soudain l'été dernier de Mankiewicz, qui est un film psychanalytique avec Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, avec une manipulation, avec l'homosexualité, etc. On n'avait même pas peut-être 12 ans. Mm-hmm. Donc, on nous a montré tout un tas de films du répertoire. Et sans nous dire, ah, vous allez voir, c'est des films importants, etc. Et je trouve que c'est formidable de voir le cinéma comme ça. Parce que c'est entré dans notre tête. Par exemple, moi, j'étais souvent la plus jeune. Je ne comprenais pas comment les gens savaient que le film allait finir. Et moi, pas. parce que j'avais rien compris, mais au fond, il y avait des images qui étaient restées. Et ça, je trouve, c'est une expérience qui ne peut plus exister aujourd'hui.
Mm-hmm. Pourquoi ?
Parce qu'il y a beaucoup de films à la télé, il y a beaucoup de films partout. C'était la distraction majeure au cinéma. Ouais, on allait deux fois par semaine, plus le ciné-club, qu'on n'appelait pas le ciné-club, on disait ça, aller en VO.
Et c'est joli, aller en VO.
Ouais.
Très joli.
Alors, moi, ce que je vous propose...
Vincent nous a pas dit son film de l'enfance.
C'est un James Bond à tous les coups, non ?
Alors non, c'est pas un James Bond, ça aurait pu. Non, celui que j'ai vu... Enfin, je vous passe tous les Disney qu'on nous fait voir quand on est gamin. Le premier film qui m'a marqué profondément, c'est un film de serial killer français, quand on y réfléchit bien. C'est Peur sur la ville.
Ah oui.
J'avais 9 ans, je vais voir Belmondo qui court sur les toits des galeries Lafayette à la recherche de Minos, avec cette musique ultra angoissante d'Ennio Morricone. Alors j'ai commencé à grimper sur les toits de ma maison, après pour imiter Belmondo.
Aïe, 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 non.
Si, je l'ai fait vraiment.
T'as pas le vertige. Hein.
Et non, heureusement. Mais ce film m'a profondément marqué. Le polar, le côté serial killer, les dialogue de Francis Weber et tout ça, et c'est un film qui m'a suivi toute ma vie.
Et tu es très passionné par l'univers de Jean-Paul Belmondo, tu as même écrit sur Jean-Paul Belmondo.
C'est surtout que si j'avais pu imaginer un jour que bien des années plus tard, non seulement je le rencontrerais, que j'aurais le privilège de faire partie de son cercle un petit peu intime, et que je réaliserai et produirai le film de sa vie, de sa carrière, que ce serait sélectionné au Festival de Cannes et qu'on ferait autour de lui une soirée spéciale là-bas pour lui remettre une palme d'or d'honneur. Je pense que j'aurais jamais imaginé que c'était quelque chose de possible un jour. C'était un rêve tout éveillé.
Tu pourrais faire de la radio, tu sais. Parce que là, ce millefeuille que tu viens de nous composer pour arriver jusqu'à la palme, c'était fabuleux.
Mais c'est magnifique. De Peur sur la ville à cette soirée magique et inoubliable avec lui, c'est quelque chose d'extrêmement fort.
Félicitations Vincent, bravo, vraiment bravo. On revient sur les questions. Il sera question d'ailleurs de Jean-Paul Belmondo dans ces questions. Une série de questions, vous êtes prêts?
Oui.
En rafale, on y va.
Des réponses rapides, d'accord. Okay.
Isa, tu veux commencer?
Vas-y, à toi l'honneur.
Qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2020 pour son rôle dans Joker?
Joaquin Phoenix.
Bonne réponse, et il a aussi remporté le Golden Globe la même année. Hein. Isa.
Quel acteur joue le rôle du premier ministre anglais dans le film Love Actually?
J'ai pas vu.
Colin Firth.
Colin Firth. Non, c'est
non.
pas ça.
Non.
Mais j'ai toujours rêvé de faire ça.
Hugh Grant.
Oui, c'est Hugh Grant.
Voilà. Je les confonds toujours un peu tous les deux.
Moi non, mais je me suis juste plantée.
C'était en 2003, juste après le succès de 4 mariages et un enterrement.
Il est 15h33, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Resto, vous pouvez toujours faire des dons radio.restoducœur.org et sur l'application à télécharger évidemment. On poursuit avec une nouvelle question. Qui est le réalisateur de la série de films Les Tuches?
Jean-Paul Roux. Qu'est-ce que je raconte?
Olivier Barou. Oui, absolument, Vincent, c'est ça, qui a débuté avec Cadmerade, on s'en souvient, et notamment chez Jean-Luc Delarue avec le duo Cad et Olivier. Le premier Tuche est sorti en 2011, Isabelle.
Ouais, et alors on en parlait il y a un instant, un long dimanche de fiançailles, donc. Quelle actrice a remporté un César pour ce film en 2004? Marion Cotillard ou.
Audrey Tautou.
C'est Audrey
Tautou.
Eh ben non, en fait, c'est Marion Cotillard, meilleure actrice dans un second rôle.
Ah bah oui, second rôle, parce qu'elle a le premier Audrey.
C'est terrible, c'est que je me souviens plus d'elle dans le film.
C'est Marion plus.
C'est dommage parce qu'elle est là.
Pardon Marion. Non mais Jodie Foster bien sûr.
Elle a un petit rôle dedans, ouais.
Tout petit mais très marquant.
Alors pas trop visiblement.
Ça devrait aller vite pour cette réponse à la question suivante. Qui joue le rôle de Jules César dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre?
Ah ben
Alain Delon.
Alain Chabat. Oui, qui a réalisé ce film en 2002.
Delon c'est dans l'autre.
15 millions d'entrées quand même pour ce film, Isa.
En 2008, qui a joué le rôle de Jacques Mesrine au cinéma?
Vincent Cassel.
Oui, c'est ça.
Et précédemment, Nicolas Hilberg dans une version plus ancienne d'un film d'André Genovese sur le même sujet.
D'accord.
Impressionnant.
Mais quel. C'est fou.
Écoute, et qui était le deuxième accessoiriste du film?
Roger Andrieux.
Alors Vincent Cassel donc, qui a interprété le gangster hein, tué par la police, c'était le 2 novembre 79, Isa
hein. Ouais c'est ça, il a fait donc ce film réalisé par Jean-François Richet, et puis il a fait L'Instinct de mort et L'Ennemi public numéro 1, et il en a fait deux.
Et il s'était vraiment métamorphosé pour ce rôle, je sais pas si vous vous souvenez, il avait pris du poids. Bon après je crois qu'il avait des prothèses aussi, mais ouais. Il était vraiment cruellement métamorphosé, ouais, hein. Ça faisait bizarre, ouais.
Alors certains disent Mesrine, d'autres disent Mérine, enfin bon.
Moi j'ai choisi Mesrine.
Alors quel est le nom du personnage joué par Franck Dubosc dans les films Camping?
Patrick Chirac.
Patrick ouais. Chirac,
voilà exactement. Le premier volet est sorti en 2006, les deux autres en 2010 et en 2016.
On continue. Qui a remporté le César du meilleur acteur pour le film Intouchable?
Ah, c'est Si ou Cluzet?
C'est Omar Sy. Non, c'est Omar. Oui, c'est Omar Sy, mais oui, il a même fait un discours de remerciement formidable et extrêmement touchant et émouvant.
Eh oui, parce que François Cluzet était nommé aussi, c'est ça qui est dingue, dans la même catégorie. Mmh. Et je trouve ça difficile, moi, pour deux acteurs.
Ils auraient comme pu ça un prix commun.
Exactement.
Oui. Ça aurait eu du sens.
Oui, c'est vrai.
Absolument.
C'est vrai.
Parce que l'un sans l'autre n'existait plus, finalement, voilà. En plus. Hein, donc, c'était vraiment un tandem inséparable. Intouchable.
Intouchable, c'est clair. C'est joliment dit. Quel acteur a joué aux côtés de Johnny Hallyday dans L'Homme du train réalisé par Patrick
Jean
Lecomte
Rochefort.
En 2002 ouais. C'est bien Jean Rochefort,
on parlait des voix d'acteurs tout à l'heure. Oh, celle de Jean Rochefort, dès qu'on y pense, on l'entend.
C'est
comme
vrai.
Celle de Marielle ou de Noiret.
Mais il y a eu à cette époque-là quand même des fournées magiques d'acteurs. Jean-Paul Belmondo m'a dit: est-ce que tu réalises que quand j'étais au conservatoire, dans la même classe que la mienne, c'était Annie Girardot, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Françoise Fabian, Bruno Kremer.
La promo
incroyable, c'est quand même. Hein. Il y avait de temps en temps comme ça des fournées qui arrivaient et qui marquaient les 30 ans qui suivaient au cinéma et à la télé et au théâtre.
C'est vrai. Jean Rochefort qui nous a quittés en 2017 à l'âge de 87 ans. Il campait le rôle hein, d'ailleurs dans ce film d'un professeur de lettres à la retraite qui recueille donc le chanteur, en l'occurrence, qui jouait le rôle de gangster.
Et qui lui fait mettre des pantoufles. Johnny Hallyday en pantoufles. Ouais. C'est extraordinaire.
Il y a qu'au cinéma qu'on peut voir ça.
Ah oui.
En parlant de Johnny Hallyday, ça me fait penser à Eddie Mitchell. C'est dans quel film que Eddie Mitchell conduit une voiture alors qu'il n'a pas le permis et que vous savez, il y a quelqu'un Eddie Mitchell est au volant d'une Laguna, je crois, d'ailleurs, ou une Safrane de mémoire, et il n'a pas le permis. Donc c'est quelqu'un qui appuie avec ses
ah
mains.
Ouais vous n'avez pas
l'info. On va essayer de la trouver d'ici.
C'est pas Lelouch de Claude Lelouch, non?
C'est Eddie Mitchell.
C'est Eddie Mitchell qui joue dedans, ouais. Et je ne
me souviens plus. Il faut trouver avant 16h. Hein.
Combien de spectateurs ont vu le film? Combien de spectateurs ont vu le film Bienvenue chez les Ch'tis au cinéma?
Ah oui.
Je crois qu'on était à 20 millions.
Ouais. C'est devenu le film qui a dépassé. Il a dépassé Titanic,
oui,
ou pas?
En France, ouais.
Il a dépassé La Grande Vadrouille.
Oui, il a dépassé La Grande Vadrouille, voilà.
Voilà. Oui. La Grande Vadrouille, c'était 17 millions de spectateurs. Et Vincent n'était pas loin de la réalité, puisque c'est 20,5 millions, en l'occurrence.
Et Titanic, c'était aussi un score très important. C'est les trois qui ont
Je crois qu'ils ont dépassé Titanic. Hein,
oui,
en France,
je crois. Ouais.
Il a coulé le Titanic.
Qui ont coulé le Titanic.
Quel surnom est parfois donné à Alain Delon au Japon?
Au Japon.
C'est pas le dieu?
Non.
Le samouraï?
Samouraï.
Bravo.
Manque quelque chose, c'est le samouraï du printemps.
Mais on vous l'accorde quand même. Non,
oui,
vraiment,
on vous l'accorde, Eva. Les Japonais s'étaient identifiés donc à Alain Delon, admirés pour sa beauté hein, dans le pays du soleil levant. Et l'acteur est idolâtré là-bas et les Japonais donc, voulaient tous lui ressembler. Et ils l'ont appelé le samouraï du printemps.
Et voilà, et puis c'est tout, et puis c'est dit, et puis c'est bien dit.
Et c'est bien dit,
Isabelle. Vous voulez une anecdote avec Alain Delon?
Ah, avec plaisir.
J'osais pas vous demander.
Alors, c'était la fête de la musique du temps de Jacques Lang, ministre de la Culture, et il avait convaincu les Russes de faire une fête de la musique. Donc, il fait un voyage, un avion incroyable, je ne sais pas d'où venait cet avion, et moi, en tant que journaliste, on était peu nombreux, deux ou trois journalistes, il y avait dedans Alain Delon, il y avait Eddie Mitchell. Et on arrive, on se balade dans la rue, une des grandes rues de Moscou, la rue de l'Arbat. C'est comme, je ne sais pas, une rue très connue. Mm-hmm. Et les gens n'étaient bien sûr pas prévenus. Il y avait des peintres de rue, vous savez, comme ici à Place du Tertre, voyez, qui peignaient Alain Delon.
D'accord.
Et ils le voient en vrai. C'est-à-dire pour dire à quel point c'est une star en Russie. Et donc, à un moment, ils nous font faire tout un tas de trucs. Et on fait un tour sur une sorte de bateau-mouche. Et je descends pour, je sais pas, chercher quelque chose, et il y avait l'autre qui me disait, Eva, montez, vous parlez pas le russe, vous avez pas d'argent, le bateau va partir, vous allez toute seule. C'était extraordinaire parce que ça faisait colo de vacances. Et à la fin de la journée, il dit, Michel, il disait, pour vivre ici, il faut beaucoup de bourbon, il faut beaucoup de bourbon. Ça avait été un voyage incroyable. Et à l'arrivée, il y avait deux personnes qui jouaient de la musique dans un coin, voilà. Donc Alain Delon, et c'était drôle, hein, parce que c'était vraiment, c'est une immense star chez eux.
Mais c'est une immense star partout, hein. C'est Delon, Belmondo, la Russie, l'Amérique du Sud, partout.
Je crois qu'il y a des cigarettes, Alain Delon, je crois qu'ils sont vendus. Alors évidemment, loi Evin oblige, on n'en parlera pas de tabac, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au Japon ou en Chine, je ne sais plus, mais il y a carrément des cigarettes qui portent son nom.
Ah oui, des parfums,
c'est incroyable. Hein,
tout,
ouais. Quelle actrice française a joué dans le James Bond, rien que pour vos yeux, aux côtés de Roger Moore?
Carole Bouquet.
Oui.
Bravo.
Sophie Marceau, tu sais aussi, Vincent?
Demain ne meurt jamais.
C'est dans...
oui. Non, c'est pas ça?
Non.
Non,
c'est pas ça.
Mince. GoldenEye.
Non, c'est pas ça.
Non. Je suis nulle en James
Bond. Non, mais c'était dans un Pierce Brosnan.
Le monde
c'est
ne
pas
suffit
de...
pas. Bon, oui, non, voilà, ouais, c'est ça. C'est
Golem. Bravo, c'est Golem. Et enfin, Isabelle, avant d'écouter les Blues Brothers dans un instant.
Pour les besoins de quel film Georges Brassens a-t-il composé la chanson Les copains d'abord?
Les copains tout court.
Bravo.
Enfin, c'est pas les copains tout court, c'est les copains, virgule, tout court.
Réalisé par Yves Robert, adapté du roman du même nom de Jules Romain, et sorti en
65. Ouais, en fait, ils étaient copains avec Yves Robert et Brassens. Yves Robert voulait une chanson pour le film, et il a tout simplement appelé son pote en disant, tu veux pas me faire quelque chose, c'est quoi le thème du film? Bah, les copains. Ouais. Et les copains d'abord, c'est venu tout seul, il s'est devenu, et on ignore que c'est une chanson de film, hein, parce que c'est un des plus grands succès de Brassens, en fait.
La chanson est beaucoup plus célèbre que le film.
Mais oui, bien sûr.
C'est vrai, d'ailleurs.
C'est un des rares cas où la chanson est beaucoup plus célèbre que le film.
Ouais. Alors là, en revanche, là, c'est égalité, hein, parce que le film est aussi célèbre que la musique. Merci, Ségolène. Everybody needs somebody to love. Les Blues Brothers, on les écoute. C'est parti maintenant. Et il est 15h41. Vous êtes sur Radio Resto. Et nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus pour faire vos dons. RadioRestoDuCœur.org. All the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show. And please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love.
Someone to love.
Sweetheart to miss.
Sweetheart to miss.
Sugar to kiss.
Sugar to kiss.
I c'est comme ça que ça se termine. De toute façon, c'était comme ça que ça devait se terminer, avec des applaudissements que méritent nos invités d'ailleurs, tellement ils sont intéressants, beaux et bons. Ça fait plaisir
c'est
d'être avec
rêve.
Vous.
C'est un rêve de vous avoir, vraiment. Écoute,
on a bien fait de venir.
On se régale.
Allez, on y va.
Radio Resto, 48 heures non-stop.
Et j'embrasse le copain Philippe Liado qui prendra la suite dans quelques minutes. Philippe qui est tous les matins sur Nostalgie avec Philippe et Sandy et qui va vous proposer une émission absolument géniale avec des voix off, des voix antennes, des bandes annonces de films. Vous savez, ces voix qui nous font rêver. Philippe sera là dans quelques minutes, dans un petit quart d'heure maintenant. C'est ça la magie de la radio justement. C'est de, bah, on est tous copains quoi. Enfin, il y a pas de rivalité. Alors évidemment, on regarde les courbes d'audience, on regarde nos scores comme ci comme ça. Mais on est tous passionnés de radio et c'est un bonheur.
C'est une vraie famille. C'est une vraie famille. Ouais. La radio, beaucoup plus qu'à la téloche. Hein.
Ah oui, mais il n'y a pas photo,
la
je
télévision,
te confirme.
C'est panier de crabe, beaucoup plus à la radio, c'est vrai.
Et plus qu'au cinéma, elle existe vraiment cette grande famille du cinéma.
Ah bah oui.
Il y a des clans. Il y a beaucoup de familles au sein de la grande famille. Mmh. Voilà. Et tout le monde ne s'entend pas forcément si bien que ça.
Dans les familles, il y a aussi des Atrides, enfin, il y a toutes sortes de, familles. Ce n'est pas forcément des familles aimantes. Je pense que c'est plutôt un cliché, c'est un milieu.
Ouais.
Comme il y a un milieu médical, comme il y a un milieu, mais. J'ai jamais aimé cette phrase-là, parce que je la trouve fausse.
C'est vrai.
Elle sonne faux.
Ah ouais, on va pas la prononcer.
Je rappelle
pas.
Qu'on est avec donc Eva Bétan de France Inter, Vincent Perrault de RTL et Ségolène Aluny de France Bleu.
Exactement, Isabelle. Et on va partir au standard. On va en Mayenne, dans le 53, si je ne dis pas de bêtises, avec Baptiste qui est à Pomaz. Bonjour Baptiste.
Bonjour Vincent.
Ça va?
Ça va et vous?
Eh ben ça va pas mal. Qu'est-ce que vous faites, Baptiste? On peut se tutoyer, Baptiste? Non, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Baptiste?
Je travaille en restauration.
En restauration, d'accord. Là, ce week-end, tu travailles ou c'est du lundi au vendredi?
Non, du lundi au vendredi.
Ok. Et donc, tu nous as appelé parce que déjà, tu nous écoutes. Merci infiniment de le faire. Merci de soutenir les restos du cœur. Et tu voulais parler avec Eva, Ségolène, Vincent, Isabelle et moi de cinéma. Ça tombe bien, c'est le moment. Qu'est-ce que tu voulais nous dire?
C'est un plaisir de vous écouter depuis 2 heures et j'ai un coup de cœur cinéma que chaque fois que je le vois, c'est toujours une claque dans la gueule. Le film, c'est Ready Player One de Steven Spielberg.
Ah oui.
Et un très bel hommage à la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Et déjà réalisé par Spielberg, c'est du grand art, mais le film est génial. Franchement, je m'en lasse pas de le voir.
Ce qui est amusant avec ce film, c'est d'essayer de trouver toutes les petites références qui sont planquées. Il y en a des centaines.
Il y a des auto-références à son propre cinéma aussi.
C'est très très sympa, très bien fait. Les K2000, les retours vers le futur, il y en a tout pour tous les âges. Tout le monde trouve son plaisir dans Ready Player One, il a raison.
Si vous aimez Spielberg, allez voir son dernier film, The Fableman.
Là, ça n'a rien à voir.
C'est un autre registre. Je sais. Non, mais si vous l'aimez, si vous avez suivi beaucoup de ses films, c'est le film le plus où il parle de sa famille en quelque sorte. Il parle de ses parents, il parle de ce qu'un divorce fait sur un enfant, de la part de culpabilité quelquefois que les enfants croient avoir dans la séparation de leurs parents. Il parle de son amour du cinéma. Voilà, si au-delà de ce film, vous avez envie, je me permets de vous donner ce conseil.
On note. Merci Eva.
C'est noté. Pascal, vous avez une autre question ou un autre message peut-être?
Non, c'est bon.
C'est déjà très bien.
C'est tout pour le moment. Merci Pascal, à bientôt. Et si comme Pascal vous voulez nous joindre, Lucas, c'est facile, le numéro n'a pas changé.
C'est toujours le 01 46 20 31 31.
On va rendre l'antenne dans 12 minutes pour la donner, je le disais à Philippe Liado. Un point sur les dons, où en sommes-nous s'il te plaît?
On en est à 174 940, donc on augmente encore, c'est très cool. Et si vous voulez rajouter de l'argent dans notre cagnotte, c'est radio.resto.org.
Exactement. Et puis juste, je le disais tout à l'heure, hein, c'est la quatrième saison de Radio Resto, mais 1 million d'euros ont été récoltés grâce à Radio Resto lors des 3 premières saisons. Donc c'est énorme.
C'est beau.
Beaucoup d'argent.
C'est beau.
Il faut continuer.
Il faut continuer de la radio libre tout au long de ce week-end 48 heures de direct avec toutes les animatrices et tous les animateurs de France, enfin du moins le plus possible. Merci au Studec. Merci à Fabrice Legrier aussi qui encadre tout cela avec talent. À Silvio Marchion et à toute l'équipe, merci beaucoup. Il est 15h50, on continue avec des répliques de films. Après, on vous demandera à qui vous pourriez donner un Oscar ou un César d'honneur. Alors, on vous demandera pour l'acteur, pour l'actrice et pour le réalisateur. Ça, c'est juste pour que vous commenciez à vous préparer un petit peu.
Sacrée question,
T'as vu un peu on y va pour la réplique, alors j'en ai une. Isa, t'es prête?
Ouais.
Vous êtes prêts?
Oui.
On y va. Moi, j'adore ces ambiances Bon, je recommence.
Super.
Mais alors, attends, je sais pas. Ça tombe très bien que tu. Parce que j'ai pas la bonne page.
C'est page 4.
Faut que je parle avec toi, là.
Non, pas là. Moi, pas
t'es tout seul, c'est un monologue, là.
Ouais,
c'est bien préparé, votre truc. Hein.
Alors, c'est routi, réplique, deuxième.
Action.
On l'a refait.
J'adore, moi, ces ambiances J'adore ces ambiances d'ANPE. C'est convivial, c'est chaleureux. Et puis, c'est agréable d'être humilié de temps en temps.
J'ai vu ça.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. C'est une comédie ? Ou c'est un drame ? C'est enfin, du coup, c'est non, second
plus,
degré
plus,
ou pas ?
Plus comédie quand même. Ouais. Hein. Ouais, plus comédie quand même. Non, oui, comédie. Ah ouais. C'est sorti en 2000. J'adore ces ambiances d'ANPE. C'est convivial, c'est chaleureux. Et puis, c'est agréable d'être humilié de temps en temps. À l'époque, ça s'appelait évidemment pas Pôle emploi. Vous l'avez compris.
Oui, ouais. Maintenant, c'est France Travail, hein, d'ailleurs. Ça va se transformer en France Travail. Oui, Pôle emploi se transforme encore une fois, échange.
Oh, dis donc.
Mais ça ne nous aide pas pour trouver le titre.
On a beau noyer le poisson très habilement. Bravo, Ségolène, mais ça ne revient pas.
Dans ce film, celui qui donne, qui donne cette réplique s'appelle Jean-Jacques Castella.
Oh, la colle!
Et
je crois que c'est dans le même film, si je me trompe.
Qui a préparé ces répliques? Vous auriez deviné, vous ou pas?
Pas du tout. Mais c'est vous, les experts du cinéma.
Attendez,
c'est
j'ai un indice. Dans ce même film, je pense que je me trompe pas. Ouais. Il prend un cours d'anglais et il apprend
à lire. Oh, mais si, bien sûr. C'est Jean-Pierre Bacri dans Louis des Autres.
Voilà.
Castella, mais oui.
Merci.
Elle est mythique, cette scène, non? Il apprend à dire The.
Ah ouais, The.
J'adore.
Non,
The.
À toi, Isa.
C'est à moi. Alors, elle est très courte, hein, préparez-vous. J'aime me beurrer la biscotte.
Oh, SS117.
Allez là. C'est bien.
Ouais, SS117, le Kerny d'espion, c'était en 2006. Phrase lancée par donc, l'agent secret Jean Dujardin. À Lamina, joué par Bérénice Bejo.
Voilà, un autre très court, pareil en une phrase, sans patate.
Oh, trois frères.
Voilà, en 95, effectivement, les inconnus, les malheureux perdants d'un héritage de 3 millions de francs à l'époque, finissent par être obsédés par la moindre mention d'argent avec, effectivement, les inconnus, qui visiblement devraient se reformer. Vous avez des infos là-dessus ?
J'ai entendu dire qu'ils étaient d'accord, a priori, pour le faire et que l'écriture avançait, non ?
C'est Bernard Campan, a priori, là, qui avait les deux pieds sur le frein, mais finalement, ça y est, il a rappuyé sur l'accélérateur.
Hein ? Ils n'arrêtent pas de faire des retours de...
C'est un peu comme le Splendide, hein, dangereux, on demande à voir, mais bon, croisons les doigts pour que ce soit top.
C'est vrai.
Isa, à toi ?
Les cons, ça ose tout.
Les tontons flingueurs.
Oui. Lino Ventura dans Les tontons flingueurs, c'était un film de Georges Lautner.
Voilà. C'est trop bien ça.
Attends, je l'ai dit jusqu'au bout quand même.
Pardon, excuse-moi.
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, pour ceux qui la connaissaient pas, pour les plus jeunes qui nous écoutent.
Mais c'est vrai que t'as raison, je sais pas qui a préparé cette émission, mais c'est improbable.
C'est fouillis, hein.
écoute, t'es prête en page 6 ou pas?
Oui, je suis prête.
Mais madame, je vous jure.
Mais Marie-Thérèse.
J'ai pas couché,
Marie-Thérèse ne jurait pas.
Mais oui, exactement.
Étienne Chatiliez.
Ah, écoute, Eva, vous l'avez aimé ce film?
Adoré.
Ah, c'est vrai?
Aussi, celui-là, je l'aime beaucoup.
Vous voulez nous faire une réplique?
Ah non, je suis pas au point de faire les répliques. Non, mais je le visualise. Mais oui, mardi, c'est ravioli, etc. C'est des choses qui sont rentrées dans le vocabulaire courant d'avis des gens. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai.
Et moi, j'ai fait la connaissance de Benoît Magimel à l'époque de ce film, puisqu'il était tout gamin. Il est le petit gamin aux yeux bleus.
C'est le premier
c'est son premier film. Ouais. Et je l'ai reçu dans une émission de télé sur France 3 à l'époque. À cet âge-là, et bien des années plus tard, il me dit « Oh, ma première émission de télé avec toi !» Et moi, j'avais la honte parce que je me souvenais plus du tout de quoi il voulait parler. Tu te souviens pas ?» J'avais 8 ans, enfin 10 ans, je sais plus, la vie est un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que je me souvenais plus que c'était lui qui avait fait ça dans le film.
Mais toi, tu vieillis pas, toi. Comment tu fais pour pas vieillir comme ça?
Va au cinéma.
Je vois 4 films par jour.
C'est une fontaine de jouvence.
Je vois pas d'autres explications. Hein.
Non, mais c'est vrai, écoute. C'est le fait d'être devenu père qui t'a. Hein,
c'est possible.
Hein, c'est possible.
Généralement, ça fait l'effet inverse. Hein.
Oui, mais avec Vincent Perrault, c'est pas non.
C'est Benjamin Button.
Rien comme tout le monde, celui-là.
Ah, je te jure. Hein. Ah bon, mais alors, il s'appelle juste Leblanc, mais il a pas de prénom.
Ah, bah oui. Le dîner de con.
Voilà, c'est ça. En 98, Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. À toi, Isa.
Monseigneur, c'est l'or, il est l'or.
La folie des grandeurs.
Ça aussi, c'est rentré dans le vocabulaire.
C'est magnifique. Mais on voit ce moment où Louis de Funès se dresse comme ça dans son lit.
Il en manque une.
C'est vrai. Vraiment, c'est trop beau.
Et il y a aussi j'épouse le chien, je deviens reine. C'est toujours dans la folie des grandeurs quand ouais. Tu dis, voilà, il se rêve.
Ouais.
Yves Montand, Louis de Funès ou Gérard Houry, vous avez eu l'occasion de les interviewer déjà ?
Non.
Non, Gérard Houry, oui.
Gérard Houry, oui.
Oui, oui. Gérard Houry, pendant le tournage de La Soif de l'Or. Et c'était magique de reparler de ces grands moments parce que c'était en plus quelqu'un d'extrêmement généreux qui adorait parler, qui adorait raconter, qui en plus était acteur au début avant d'être metteur en scène. Donc fatalement, un côté représentation et il racontait les tournages de ses films comme personne et ça faisait encore plus rêver que de les avoir vus. Quoi. Magique.
La Soif de l'Or, c'est Christian Clavier. Oui. Christian Clavier qui confiait récemment qu'il ne regarde jamais ses films. Jamais. Une fois qu'il les a tournés, il ne les revisionne pas. Vous avez des anecdotes comme ça de comédiens qui ne veulent pas se voir à l'écran, à l'image.
Vous voyez tous qui c'est Grégory Gadebois. Grégory Gadebois qui a joué notamment dans J'accuse avec Jean Dujardin, qu'on voit dans énormément de films, une personne qui a une forte corpulence.
Asbestas,
évidemment, voilà, on le voit à peu près partout. Et en fait, lui, il ne peut même pas s'entendre. C'est-à-dire que je l'ai reçu en émission et quand j'ai passé un bout de la bande-annonce, je me disais, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il avait retiré le casque et il s'éloignait du micro et il se bouchait les oreilles avec les mains.
Fou.
Et je lui ai demandé après, pourquoi vous? Il fait, en fait, je ne me regarde pas et je ne veux pas m'entendre.
Ah oui.
Jamais il se regarde, jamais il ne s'écoute parce qu'il ne se supporte pas. Alors pour moi, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération aujourd'hui en France.
Ça compense avec tous ces acteurs qui adorent se voir et qui adorent s'entendre et qui revoient leurs films beaucoup. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça.
C'est qui le plus mégalo pour vous, justement?
Là, ça balance.
Ah bah là, on y va. Il est 15h56, on rend l'antenne dans 4 minutes avant de la donner à Philippe Yadeau. Donc je vous dis, on en profite. Hein. C'est qui le plus mégalo, Eva?
Je sais pas, parce que quand ils sont en face de nous, ils sont prévenus, l'interview est prévue, donc ils vont pas se montrer mégalos.
Ouais.
On est là, c'est sérieux. Donc on a, je dirais, la meilleure part, c'est-à-dire qu'on a les films, et quand on les rencontre, c'est pour du travail.
Avec tout le respect que j'ai pour vous, à France Inter, on pratique pas la langue de bois, normalement.
Non, mais c'est pas de la langue de bois, mais je suis pas capable de vous dire un tel est mégalo. Moi, ce qui m'avait frappé brièvement quand j'avais couvert la musique, c'est que tous les grands artistes du classique étaient adorables et quelqu'un qui avait sorti 2 titres était odieux.
Ah oui.
Donc, c'est pas souvent proportionnel à la réputation.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais.
Donc, non, j'ai pas d'exemple.
Donc, on n'aura pas de nom avec Eva pour l'instant.
Mais je peux pas dire non plus.
Moi non plus.
Mais vous aimez les acteurs.
Je crois qu'on n'est pas suffisamment dans leur intimité pour le savoir non plus.
Ça,
hein.
Si, c'est chic.
Mais le nombre d'acteurs qui n'ont même pas les DVD de leur propre film, ça, en revanche, je l'ai remarqué souvent. Hein.
Ah oui.
Je dis, vous avez ça, bien sûr. Moi, un jour, Belmondo m'a même dit qu'il n'avait pas vu certains de ses films.
C'est génial.
On parlait. Alors, moi, j'ai une passion pour Docteur Popol, qui est de Claude Chabrol, qui est un film impertinent, politiquement incorrect. Et je lui dis que c'est un de mes films préférés. Il me dit, je l'ai pas vu celui-là. Non, parce que après je suis parti en Italie tourner un autre et puis ça s'est enchaîné, puis finalement je l'ai pas vu et je lui ai montré Docteur Popol chez moi. J'étais fier comme un bar tabac.
Ah bah ouais, voilà. Comme disait Coluche,
lui montrer un justement. Film à lui chez moi qu'il n'avait pas vu, ça c'est quand même magique. Hein.
C'est merveilleux.
Ouais. Et la personne que vous rêveriez d'interviewer mais que vous n'avez jamais réussi à avoir à votre micro, ce serait qui?
Parce qu'il est mort ou parce qu'il a refusé?
Non, même oui, voilà, pour l'occasion on pourrait. Alors on va poser la question pour les deux, tiens.
Parce que si c'est un regret, moi c'est Marlon Brando. J'aurais tout donné pour une interview avec Marlon Brando.
Et alors je sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai lu dans des ouvrages de cinéma qu'il arrêtait tous ses tournages à 16h pour aller chez le psy. Est-ce que c'est vrai ça?
Alors ça, je suis pas sûr quand même que ce soit acceptable à Hollywood, pour un enfant gâté et terrible comme lui, je suis pas certain.
Je trouvais ça dingue. Quoi. Excusez-moi, j'ai psy, on arrête, il est 16h.
Il y a 2 millions de dollars là, oui, toutes les minutes, mais j'arrête. Hein.
Eva, la personne que vous rêveriez d'avoir à votre micro, disparue ou encore de ce monde?
Sans prétention aucune, c'est pas lié à moi, c'est lié à France Inter.
Elle a tout fait.
Beaucoup de grands artistes de Scorsese à Coppola et autres. C'est pas lié à ma personne, c'est lié à France Inter. C'est plutôt une personne disparue. J'aurais aimé interviewer Kubrick. Au point que j'étais allée une fois faire un reportage dans sa maison en Angleterre avec sa femme qui m'avait fait visiter toute sa maison, etc.
Il manquait plus que lui, quoi. Tu as touché tout Kubrick sauf Kubrick.
Je répète que c'est pas lié à moi, c'est France Inter. Il faut être très humble. On est aussi
Mais bien sûr.
On est beaucoup ce qu'est le média pour lequel on travaille.
Évidemment.
C'est vrai. Non, c'est sûr.
Ségolène
Moi, j'en ai deux. Donc, il y en a une qui n'est plus de ce monde. Donc, ça ne se fera pas. C'est Jeanne Moreau, que j'admire en tant que comédienne énormément. Et puis, par contre, celui peut-être, ça arrivera s'il refait un film, je ne sais pas, Bertrand Blier,